Nous allons continuer dans ce cours, le cours de cette heure et le cours de l'heure suivante, analyser les premières formes d'accomplissement, les formes d'inachèvement et les formes de rupture franche avec le programme de l'égalité tel qu'il était formulé dans les révolutions françaises et américaines à travers ces trois figures de la communauté des citoyens, du monde des semblables et de la société des individus autonomes. Dans l'heure précédente, j'ai commencé à montrer une forme d'accomplissement de cette marche vers l'égalité, qui était celle d'ailleurs qui était la plus analysée au XIXe siècle, celle de la marche vers l'égalité des conditions, notamment à travers l'exemple de l'Amérique jacksonienne. Marche vers l'égalité des conditions, qui est d'ailleurs, surtout pourrait-on dire, une marche vers la civilité démocratique. Et même si en France, il n'y a pas de terme de comparaison véritable avec ce qui se passe dans l'Amérique jacksonienne, on ne peut pas confondre Louis-Philippe et Jackson, Andrew Jackson pour sûr, mais d'une certaine façon, on voit que même dans la France de cette époque, il a le sentiment que la démocratie ne peut pas simplement se définir comme un régime et qu'elle doit se définir aussi comme une forme de civilité, qu'elle doit se définir aussi comme une forme de société. Il y a un deuxième domaine dans lequel on peut considérer qu'il y a une continuation de la marche vers l'égalité, c'est le domaine du droit de suffrage, dans des conditions bien sûr différentes en Amérique et en France. Les constituants français de 1789, je l'ai déjà signalé, avaient assez franchement rompu avec la notion de citoyen propriétaire. Notion de citoyen propriétaire qui considérait l'électeur sous les seules espèces d'un actionnaire de la chose publique. La citoyenneté, en France, avait été d'emblée considérée comme une modalité de la souveraineté populaire et comme une expression de la nouvelle égalité entre les individus. Cela n'a pas été le cas en Amérique, pour deux raisons. La première, c'est qu'en Amérique, le droit de vote y a été dès l'origine, et il l'est toujours, un droit réglé par les constitutions des États et non pas un droit fédéral. Et le fait que les conditions du droit de suffrage aient été variables a ainsi, pourrait-on dire, obscurci le rapport entre droit de suffrage et construction de la nation aux États-Unis. Et la deuxième grande spécificité de l'histoire du suffrage américain, à côté de cette variabilité des conditions de droit de vote selon les États, elle est encore plus importante. Elle tient au caractère continu de l'histoire de ce droit de suffrage aux États-Unis. Il n'y a en effet eu aucune rupture décisive entre les modalités de la participation aux élections qui existaient pendant la période coloniale et celles qui ont prévalu après l'indépendance et l'adoption, donc, en 1776, des constitutions des 13 États. Car, il faut le rappeler, les Américains votaient effectivement sous la domination anglaise. Mais leur vote, alors, s'exerçait essentiellement au sein de communautés locales, de bourgs ou de paroisses, essentiellement pour nommer les édiles municipaux, ou parfois trancher en assemblée une question d'intérêt commun, comme dans le cas des fameux town hall meetings de la Nouvelle-Angleterre. Les élections existantes n'avaient donc aucune fonction de représentation du peuple. C'était véritablement des élections de gestion, pourrait-on dire, de la vie locale. Il y avait certes des formes d'élections aussi pour les officiers provinciaux, les provincial officers, mais c'était généralement des élections à plusieurs degrés avec un électorat qui n'était pas du tout celui de l'électorat pour les élections locales. On peut dire que le thème de citoyen, donc, n'avait même pas cours pour cela. Les chartes royales qui réglaient ce droit de vote, car il ne faut pas oublier, bien sûr, que le droit de vote en Amérique pendant la période coloniale, c'est un droit britannique. Ce n'est pas un droit proprement américain. Ce sont des chartes royales qui, comme il y avait la tradition en Europe, donnaient un certain nombre de franchises municipales, notamment, aux Américains. Et dans ce cadre, les chartes qui réglaient le droit de vote présentaient des traits très spécifiques selon les provinces et les localités. Mais il y avait un trait commun à toutes ces chartes royales, c'est qu'elles étaient toujours liées à des formes de requêtes de propriété, des property requirements. Donc c'était la figure, disons, du citoyen propriétaire. Il apparaissait alors naturel de ne considérer comme pleinement membres d'une communauté que ceux qui étaient directement affectés par les politiques publiques, et au premier chef, ceux qui payaient des impôts, les contribuables. Et le lien entre le vote et le fait d'être enraciné dans une communauté avait aussi conduit à déterminer, par exemple, des conditions de résidence pour exclure les nouveaux arrivants ou les personnes qui effectuaient un séjour temporaire. On voit d'ailleurs que dans la langue américaine à cette époque, on commence à parler de « stakeholders ». Vous savez que cette notion va redevenir commune dans la science politique depuis une vingtaine d'années, mais on la voit apparaître dès cette période coloniale. Il y avait même parfois des critères d'appartenance religieuse qui comptaient pour l'exercice du droit de vote. Dans le Massachusetts, au début du XVIIe siècle, seul voter pour l'élection des officiers locaux, disons des municipalités, les membres de congrégations religieuses. Avant l'indépendance, en 1776, les catholiques étaient explicitement écartés des urnes dans 5 États. Et les juifs étaient explicitement écartés des urnes dans 4 États. Même ceux qui résidaient dans une commune, même s'ils avaient une propriété, ils n'avaient pas le droit de voter. Donc c'était une théorie du citoyen propriétaire, mais amendée notamment par ce critère religieux qu'on retrouve très souvent aux États-Unis et qui était très important à l'époque. Et si le suffrage était beaucoup plus large que dans la mère patrie, l'Angleterre de l'époque, il était très loin d'être universel. Selon ce qui deviendra les différents États, voter dans ces élections locales entre 40 et 80% de la population adulte blanche. Donc c'est un chiffre qui est plus faible en moyenne que celui du nombre de votants pendant la Révolution française, par exemple. Et la Révolution américaine a conduit à modifier ces conditions, mais cependant sans en bouleverser le cadre. Les restrictions concernant les juifs et les catholiques ont par exemple été levées. Mais il y a certaines constitutions, c'est notamment le cas de la Caroline du Sud, qui maintenaient comme condition de l'exercice du droit de suffrage la reconnaissance de l'existence de Dieu. Quelqu'un qui se serait déclaré athée, ce qui dans l'Amérique de l'époque n'était pas très facile, n'aurait pas eu la possibilité de voter. Et dans certains cas, des conditions de propriété ou de paiement de l'impôt ont été assouplies. L'État ayant été le plus audacieux dans la suppression des conditions de propriété ayant été la Pennsylvanie. Mais un tiers des États américains conserveront la législation électorale coloniale au moment de l'indépendance. Un tiers. Ce qui fait qu'en 1780, 4 ans après l'indépendance et le vote des constitutions, il y a un seul État aux États-Unis dans lequel tous les adultes mâles blancs aient le droit de suffrage, c'est le Vermont. Un seul État. Il y avait aussi, dans certains États, des conditions particulières de vote où les conditions de propriété étaient assouplies pour ceux qui avaient été des miliciens ou ceux qui avaient joué un rôle, qui avaient été soldats pendant la guerre d'indépendance. Mais globalement, la philosophie de la citoyenneté aux États-Unis, telle qu'elle apparaît en 1776, reste bien celle du citoyen propriétaire ou du contribuable citoyen. Les pères fondateurs se méfiaient en effet des risques qu'aurait entraîné une extension trop large du suffrage, dans les villes notamment. Gouverneur Morris soutenait par exemple que seuls les citoyens propriétaires pouvaient être des gardiens de la liberté, tandis que le petit peuple des ouvriers urbains, c'est une de ses expressions fameuses, risquerait en permanence d'être manipulé par les riches. Et aux États-Unis, dans les restrictions du droit de suffrage, ce rapport entre le suffrage des campagnes et le suffrage des villes a toujours été quelque chose d'essentiel. Et Madison, de son côté, allait jusqu'à analyser la corruption du Parlement anglais, alors qu'on est tout de même en 1700, au moment de la Révolution, on dit ça juste après la Révolution, en 1787, au moment où on rédige la Constitution de Philadelphie. Madison allait à ce moment-là jusqu'à considérer que si le Parlement anglais était devenu corrompu, c'est que le droit de suffrage était trop large en Angleterre. Alors que vous le savez, avant 1832, ce sera tout le système des bourgs pourris, où il y avait simplement 50 000 personnes qui votaient en Angleterre. Donc un suffrage extrêmement restreint, extrêmement particulier. Eh bien, Madison trouve qu'il était trop large, déjà. Et fait significatif, personne n'a en Amérique milité à ce moment-là pour une conception uniforme du droit de suffrage. Je crois que c'est une chose que le plus grand historien américain de droit de suffrage, c'est un ouvrage qui est paru à Harvard University Press il y a 4 ans, c'est un ouvrage de Kissard, The Right to Vote. Mais Kissard ne parle pas d'une chose essentielle, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de discussion sur le fait que l'on continue à avoir un droit de suffrage des États, qu'il n'y ait pas eu de droit de suffrage national. Comme si c'était naturel que ce soit un droit des États. Alors qu'en fait, le laisser dans les États, c'était d'une certaine façon aussi modifier le sens politique du vote. C'était bien faire du vote un moyen de déterminer ceux qui allaient être les mandataires pour la gestion des affaires publiques, et non pas ceux qui allaient être les mandataires pour la construction de la République, et pour la construction, pourrait-on dire, de la société démocratique aussi. Le fait dominant dans l'histoire américaine des 19e et du 20e siècle, c'est que le droit de suffrage ne s'est ensuite que très lentement élargi. En 1855, il y avait ainsi encore 7 États sur 31 dans lesquels existaient des conditions fiscales ou des conditions de propriété pour avoir le droit de vote. Et encore, cet élargissement, il n'a pas simplement été lent. Il ne s'est pas opéré sans difficulté et sans retour en arrière. Par exemple, de violentes protestations et même des manifestations ont eu lieu dans le Massachusetts au moment où était abandonné le critère de propriété. On a vu des défilés dans les rues de personnes protestant contre cette transformation. Et de nouvelles formes de restrictions plus insidieuses sont apparues en même temps. Donc, au moment même où on diminuait globalement, même si c'était lentement, les conditions de propriété ou les conditions fiscales selon les États pour le droit de vote, on mettait en place de nouvelles restrictions. Et ces nouvelles restrictions, ça a notamment été les literacy tests et les education tests. On sait le rôle que les literacy tests joueront après la guerre de sécession et encore plus au moment de la ségrégation, 30 ans plus tard, pour écarter la population noire du Sud des urnes. Mais les literacy tests aux États-Unis ont d'abord été inventés dans les États du Nord parce que c'était un moyen d'écarter des urnes la population ouvrière des villes. Et la première peur qu'il y a eu lorsqu'on a réduit les conditions de propriété, c'était justement de donner le droit de vote à une population jugée moins enracinée sur le territoire, jugée plus mobile. Et donc, il y a eu ces formes de restrictions. C'était aussi une façon, dans bien des cas, d'écarter des urnes les Irlandais catholiques. Il n'y avait plus de restrictions religieuses en droit de suffrage, mais ces formes de literacy test ont été très utilisées pour écarter des urnes les Irlandais catholiques ou d'autres catégories d'immigrants, notamment dans le Connecticut et le Massachusetts, qui ont été rejoints ensuite aussi par des États de l'Ouest. Et des conditions plus strictes de résidence, de durée de permanence, ont été ensuite édictées dans bien des États pour empêcher de voter des populations jugées flottantes. À la fin du XIXe siècle, existait ainsi encore de forts contrastes entre les législations du droit de suffrage. Et ces contrastes perdureront longtemps. Au milieu des années 1920, donc en se projetant très en avant, il y a toujours 13 États du Nord et de l'Ouest qui écartent des urnes les citoyens illettrés. Toujours 13 États. Et il faudra attendre, on le sait, le Voting Rights Act de 1965 pour que les literacy tests deviennent interdits dans les États du Sud, puisque les literacy tests, avec les grandfather clauses et quelques autres examens de citoyenneté, étaient les moyens traditionnellement utilisés dans le Sud pour empêcher les Noirs qui avaient été affranchis après la guerre de sécession de voter. Donc on peut dire que le suffrage s'est de la sorte universalisé aux hommes blancs, je viendrai sur ce point-là, en Amérique, très lentement, sans qu'il y ait eu de franche rupture avec la période coloniale, ni de franche rupture avec la théorie des citoyens propriétaires. On peut dire que le vote n'est devenu pleinement démocratique aux États-Unis que par petites touches successives. Et les facteurs d'évolution ont été multiples, même si deux d'entre eux ont joué un rôle majeur. Le premier facteur, le plus classiquement analysé dans l'historiographie américaine, c'est la pression exercée par l'avancée de la frontière. Les nouveaux États n'avaient pas de passé colonial, donc pas de tradition électorale précise. Et la population avait, dans ces États de l'Ouest, un accès très facile à la terre. Dans un premier temps, toutes les personnes s'installant à l'Ouest pouvaient avoir une propriété. Et l'impétus égalitaire, la civilité égalitaire, y était particulièrement forte. Et donc, il y a eu, de ce point de vue-là, un premier élément d'évolution pour précipiter, peut-on dire, l'évolution vers une citoyenneté proprement démocratique. Mais il y a aussi un autre élément qui est moins souvent mis en avant, mais qui est très important. C'est tout simplement les transformations de la structure sociale du pays. Il ne faut pas oublier que le droit de vote aux États-Unis a été pensé dans une Amérique qui avait 1 million d'habitants avant, au milieu du XVIIIe siècle, et qui, au moment de l'indépendance, n'en a que 3 millions. Donc c'est un pays très largement rural, un pays avec des petites communautés de fermiers, un pays dans lequel, donc, on peut dire que être propriétaire était la condition dominante. Mais bien sûr, à partir de, je reviendrai, ce qu'on a appelé la révolution du marché, et l'Amérique jacksonienne est justement un moment de transition, va se développer la condition salariée. Et il y aura de moins en moins de propriétaires, d'un certain point de vue. Et donc, au fur et à mesure que la croissance de la population urbaine se produit, cela diminuait le nombre de personnes susceptibles de se qualifier. Et donc, il y a eu une transformation insensible de ce qu'on pourrait appeler la philosophie du suffrage qui était liée à cette transformation sociologique. Le suffrage aux États-Unis est passé aussi d'une conception du suffrage, du vote fonction, à un vote droit, en fonction même de l'impossibilité sociologique de continuer à faire, même s'il n'y avait que la moitié de votants, il n'y avait plus la moitié des habitants qui étaient des propriétaires dans un certain nombre d'États. Donc c'était une évolution qui s'est produite sous cette double pression. Tout autre a été l'histoire française. L'histoire française, à l'inverse, n'a pas été celle d'une lente progression, pourrait-on dire, d'un suffrage ancien du citoyen contribuable ou du citoyen propriétaire vers le suffrage universel. L'histoire française a été celle d'une oscillation. D'une oscillation entre le quasi-suffrage universel, c'était la situation pendant la Révolution française, et puis le suffrage censitaire. Parce que même si c'était assorti d'un système de suffrage indirect, on peut dire que la législation révolutionnaire avait tout de même permis à 4,5 millions d'hommes de participer aux opérations électorales en tant que citoyens actifs, qui était tout de même un chiffre important. Mais avec la Restauration, en 1914, le nombre d'électeurs se réduit soudainement à 100 000. Donc c'est une restriction considérable. Et c'est le vote fonction, donc, qui s'était substitué au vote droit. En même temps que le citoyen propriétaire, notion qui sera élargie en France à celle de citoyen capacitaire à partir de 1830, faisait son retour. C'était donc un recul spectaculaire. Mais paradoxalement, les libéraux au pouvoir ont théorisé le fait que c'était un progrès. Comment est-ce possible ? Tout simplement, en comparant le nouveau chiffre des 100 000 électeurs, non pas aux 4,5 millions de membres des assemblées primaires, mais au nombre d'électeurs de deuxième degré pendant la Révolution. Car le système électoral pendant la Révolution était un système électoral où il y avait les membres des assemblées primaires qui élisaient ceux qu'on appelait, au sens juridique du terme, les électeurs pendant la Révolution française, étaient les électeurs de deuxième degré seulement. C'était ceux qui procédaient au choix des personnes pour les fonctions municipales, les fonctions de juge, les fonctions ecclésiastiques dans certains cas. Elles étaient très nombreuses au vote. Les membres des assemblées primaires composaient seulement ce corps électoral de deuxième degré. Et d'ailleurs, ils avaient simplement comme dénomination officielle citoyen actif ou membre de l'assemblée primaire. Jamais, dans aucun texte révolutionnaire, où il y avait, dans les périodes de double de suffrage indirect, on les appelait les électeurs. Et donc, on opposait, entre guillemets, les 100 000 électeurs réels aux 45 000 électeurs de deuxième degré d'autrefois. Et on opposait une participation qui était jugée indirecte, inactive et chimérique dans les assemblées primaires à la participation active et réelle d'un électorat plus restreint. Ce sera pendant des années toute la thématique que l'on trouvera aussi bien chez les libéraux doctrinaires que chez un Donou, que chez un Benjamin Constant, que de faire cette opposition. C'était donc nier que les assemblées primaires aient eu une utilité quelconque. C'était donc considérer que le vote n'avait pas de fonction symbolique, qu'il n'avait pas de fonction civique, qu'il avait simplement une fonction technique, c'était choisir des représentants. Benjamin Constant était jusqu'à dire que les assemblées primaires étaient simplement le théâtre de vaines cérémonies. C'était donc donner une définition de la politique, qui était une définition qu'on pourrait dire purement gestionnaire, et faire de la représentation simplement un mécanisme de sélection, et non pas un mécanisme de constitution on peut dire, de la société et du monde commun. C'était aussi estimé que l'essentiel de la révolution moderne ne résidait pas tant dans la participation politique que dans la jouissance des libertés civiles toujours plus larges. On peut même dire que ces libéraux, qui étaient des enfants de Thermidor, ont même vu dans l'exacerbation du politique la cause des dévoiements qui avaient conduit à la terreur. D'où leur obsession, justement, de désacraliser la politique, d'enlever à la politique sa dimension instituante, de l'épurer de toute dimension symbolique pour la réduire à un art de la gestion des hommes et des choses. C'est la fameuse phrase qui sera celle de Saint-Simon en disant que le monde moderne passe du gouvernement des hommes à l'administration des choses. C'est aussi la grande idée libérale. C'est que la politique n'est pas le lieu de la constitution du social, la politique est simplement le lieu de la gestion des affaires publiques. Et que les représentants doivent donc être des représentants qui ont essentiellement, je dirais, la confiance et la compétence. Mais que les représentants ne sont pas insérés dans une opération de construction sociale. Et c'est de là que vient la fameuse opposition de la liberté des anciens d'ordre politique et de la liberté des modernes qui est d'ordre civil, qui sera thématisée en 1819 par Benjamin Constant. Elle a trouvé son origine justement dans cette obsession, depuis la période thermidorienne, de conjurer le retour des passions politiques. En effet, Constant n'est pas le premier à avoir thématisé cette opposition. Et si sa fameuse conférence de 1819 à l'Athénée sur l'opposition de la liberté des anciens et de la liberté des modernes a été le texte qui progressivement est apparu comme le texte canonique sur la question, pour des personnes de 1814 ou de 1815, les textes canoniques sur la question étaient tout autres. Le grand texte canonique, c'était un texte de Madame de Staël. Les réflexions sur la paix intérieure sont en effet de 1795, un texte typiquement thermidorien, et le premier texte qui théorise cette opposition sur la nécessité de dépassionner le politique et d'opposer donc cet ordre du civil et cet ordre du politique. Et avant Benjamin Constant, c'est aussi une personnalité thermidorienne très importante qui était un des principaux rédacteurs de la Constitution de l'an III et qui sera ensuite un grand historien et un grand publiciste sous la Restauration, c'est Donou. Et c'est Donoux qui, dans un essai sur les garanties individuelles, le titre complet de son livre étant « Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état de la société », qui en fait développera tous les thèmes que reprendra Benjamin Constant. Et si maintenant on a édité les manuscrits de Benjamin Constant, cette idée de 1819, on la retrouve dans ses manuscrits qu'il a rédigés vers 1802-1803, mais ces manuscrits étaient très imbibés, si je puis dire, de sa proximité avec la pensée de Madame de Staël. Et cela sera en fait le leitmotiv de toute une génération. La démocratie moderne, expliquait typiquement Guizot après juillet 1830, n'est pas vouée à la vie politique. Elle n'aspire pas au pouvoir, elle n'aspire pas à gouverner elle-même, elle veut intervenir seulement autant qu'il est nécessaire pour qu'elle soit bien gouvernée et qu'elle puisse en toute sécurité vaquer à la vie domestique et aux affaires privées. Une telle vision ne pouvait naturellement conduire qu'à l'échec, parce que c'était d'abord s'aveugler sur le sens du droit de suffrage, oublier qu'il avait une dimension sociologique et psychologique essentielle, qu'il était aussi producteur de dignité et de reconnaissance, constructeur d'appartenance. Et ces libéraux n'avaient notamment pas pris la mesure d'un fait essentiel. C'était celui de la faiblesse de la société civile en France. Parce que cette faiblesse de la société civile, elle donnait paradoxalement une importance particulière à la société politique. On peut dire que la mise en pratique de la distinction entre liberté des anciens et liberté des modernes avait une éventuelle pertinence là où la société civile avait une consistance propre très forte, offrant de véritables mécanismes, d'autres mécanismes d'inclusion aux individus, des mécanismes dans les associations, des mécanismes dans les corporations, des mécanismes dans tous les corps intermédiaires. Dans ces pays, d'ailleurs, historiquement, prenons l'exemple de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne, l'intégration sociale de la classe ouvrière et des populations laborieuses s'est d'abord opérée dans ces associations, dans ces syndicats, dans ces communes. Il n'y avait rien de tel en France. Et c'est pour cela que la destruction des corps intermédiaires et la célébration de l'individu abstrait y ont presque mécaniquement institué la politique en lieu central de l'intégration sociale. C'est pour cela qu'en France, beaucoup plus qu'ailleurs, la thématique libérale de la réduction du politique a tourné à vide. On verra même, pourrait-on dire, en Angleterre, une histoire inverse. L'Angleterre, les chartistes, la charte du peuple en 1839, avait l'idée que c'est dans le politique qu'il fallait trouver une solution aux problèmes de la société. Et ensuite, l'échec du chartisme, la réponse à l'échec du chartisme, c'est que le syndicalisme britannique est devenu l'instrument de cette intégration sociale. Cela n'a pas été la politique britannique. On pourrait d'ailleurs faire une histoire de cette question dans tout le XIXe siècle français et de montrer même comment, à l'intérieur de la Troisième République, un élément décisif de la Troisième République, c'est d'avoir compris qu'il fallait lier en France même intégration politique et intégration par les corps intermédiaires. On ne peut pas faire l'histoire, je dirais, de la période 1880-1914 en France si l'on ne voit pas justement qu'il y a ces deux tableaux de l'intégration. L'intégration, je dirais, dans la citoyenneté abstraite de la politique, qui a joué historiquement longtemps le rôle majeur en France, mais aussi l'intégration dans toutes ces autres modalités liées au fonctionnement de la société civile. On peut dire pour cela que la question historique du libéralisme dans cette période, je dirais, de la monarchie parlementaire de 1814 à 1848, c'est de s'être fondamentalement mépris sur le sens de l'aspiration démocratique et de ne pas avoir compris que l'aspiration démocratique était liée justement à des éléments d'intégration, à des éléments de dignité et pas simplement à une fonctionnalité sociale. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu en France d'évolution progressive possible des choses en matière d'extension du droit de suffrage. Et c'est pour cela que le suffrage universel masculin, je vais revenir à cette limitation, a été immédiatement proclamé en 48. Ce qui est frappant quand on regarde l'histoire du décret de 48 ayant institué le suffrage universel, c'est qu'il n'y a eu pratiquement aucune discussion. À part, je vais revenir à la question du vote des femmes, une question ultra sensible tout au long du XIXe siècle. Et dans tous les pays, la question du vote de domestique, par exemple, a été évacuée en 3 minutes. C'est Cormenin, le pamphlétaire qui signait sous la monarchie de Juillet ses pamphlets sous le nom de Timon, qui était secrétaire de la commission ayant rédigé ce décret. Et Timon raconte justement que il pensait qu'il y allait avoir des discussions sur ces différentes catégories. Il n'y en a eu aucune. Tout d'un coup, on est passé, je dirais, à la radicalité du suffrage universel. Et on est passé du citoyen, de la formule la plus restrictive du citoyen propriétaire et du vote fonction, à la radicalité du vote droit. Et la France, du même coup, a comblé immédiatement son retard avec une législation qui a même été beaucoup plus avancée que celle de l'Amérique. Celle de l'Amérique qui, dans les années 1850, était justement encore, comme je l'ai dit, très liée à des éléments de conditions de propriété, à la mise en place de literacy test. Il y a eu une marche qui était très, très différente. Et les interrogations en 1948, les prudences ou les critiques précédentes se sont brutalement évanouies. Et c'est cela qui a caractérisé l'esprit de 1948. Tout n'a été soudain que déclarations lyriques, scènes de liesse et enthousiasme fraternitaire qui ont opéré ce singulier mélange d'optimisme républicain et de ferveur chrétienne qui a caractérisé les mois de mars, d'avril et de mai 1848. Ce fameux esprit de 1848 dont Marx s'est moqué de la façon la plus cruelle dans ses luttes, dans son livre « Les luttes de classe en France ». Dans lequel il a reproché notamment à Lamartine d'avoir prononcé ce mot célèbre selon lequel la Révolution avait suspendu le terrible malentendu qui existait entre les classes. Et il a vu justement dans cette expression le symbole d'une révolution qui n'avait pas compris ce qu'étaient les transformations profondes du monde moderne. Et l'élection, tout d'un coup, elle a appartenu à tout le monde, et ce qui a eu pour effet de donner le sentiment qu'il y avait non pas simplement un droit politique, mais une nouvelle forme d'existence sociale et d'inclusion sociale. C'est le fameux mot qui est de Ledru-Rollin dans la circulaire qui a publié le décret, dans le bulletin de la République, qui a publié le décret sur le droit de vote, où Ledru-Rollin a eu cette formule, qu'il avait emprunté d'ailleurs à Lamartine, à dater de cette loi, il n'y a plus de prolétaires en France. La notion, je vais revenir tout à l'heure à cette question-là, la question sociale et la question politique ayant été, c'est la grande caractéristique du printemps 48, complètement confondue. L'exclusion sociale et l'exclusion politique, c'était la même chose. D'ailleurs, il est très frappant de voir que beaucoup de chansons populaires, si on veut comprendre l'esprit de 1848, il y a des petits livres qu'il faut absolument lire, c'est « Les voix du peuple ». C'est deux petits volumes de 300 pages chacun, mais de petits formats faits pour être vendus à bon marché, qui reprennent toutes les chansons populaires de l'époque. Et donc, dans ces chansons populaires, on a véritablement, si je puis dire, la sensibilité un peu dominante qu'il y avait. Et Eugène Potier, qui deviendra le fameux auteur de l'International, écrira à cette occasion sa première chanson. Sa première chanson qui a justement pour titre « Le vote universel ». Et voilà comment commence cette chanson d'Eugène Potier. Je ne connais pas l'air et je ne suis pas très bon chanteur. Mais voilà les paroles. « Tout Français est électeur, quel bonheur. Moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'las au random. » Nous v'las au random. Ce qui montre bien que le suffrage n'a pas seulement été perçu comme une conquête politique, mais comme l'accès à une dignité sociale, et que la reconnaissance d'une dignité sociale fondamentale. Alors bien sûr, on peut insisté sur le caractère utopique qu'a eu, c'est l'expression que j'ai employée, moi, pour ce printemps 48, en parlant de la République utopique. Et il est vrai que l'idée de régénération, l'idée de baptême républicain a été très fort, d'autant plus fort que les élections, comme vous le savez, ont eu lieu début avril, le jour de Pâques. Et que donc, dans toutes les églises de France, on a vu la comparaison faite entre la résurrection du Christ et la nouvelle naissance du peuple. Il y a eu, les sermons ont été presque unanimes sur ce thème-là. Bien sûr, ça n'a duré qu'un temps. Ça n'a duré qu'un temps parce que les journées de juin sont venues là pour rappeler que la société française était une société de classe encore et qu'elle n'était pas une société, justement, qui avait suspendu le terrible malentendu qui pouvait exister entre elles, comme l'avait dit Lamartine. Et c'est aussi, surtout, ce qui apparaîtra en 1849 avec le premier face-à-face des Rouges et des Blancs, qui montre que la division de la société, elle n'a pas été surmontée par le suffrage universel. De cette façon-là, tout de même, on peut dire qu'à travers le suffrage, comme à travers la civilité, sont apparues des formes d'accomplissement ou des formes de prolongement du programme révolutionnaire, malgré leurs limites. Mais l'idée que la démocratie était une forme de société, devait devenir une forme de société, est une chose aussi qui s'effondrera pendant cette période. Et je viendrai tout à l'heure pour expliquer comment la rupture majeure qui a lieu dans cette période du XIXe siècle, c'est de constater que la société est une société de séparation et non plus une société de citoyenneté. Mais en même temps, une chose est tout à fait importante, c'est de constater que le développement de la citoyenneté n'a pas été un développement linéaire, que le développement, la marche vers l'égalité, n'a pas été, comme le disait Tocqueville dans son introduction à la démocratie en Amérique, un fait providentiel, universel, durable, qui échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les hommes, comme tous les événements, servant à son développement. Une révolution, disait-il, irrésistible, qui ne pourra pas être suspendue par les efforts d'une génération ou de quiconque. Il y a eu cependant des formes d'inachèvement fondamental. Comment penser ces formes d'inachèvement? On peut les penser autour de quatre questions. On peut d'abord dire qu'il y a inachèvement et transformation des figures mêmes de l'égalité. Donc j'ai commencé à le suggérer en montrant comment la notion de communauté des citoyens, comment la notion de similarité, comment la notion d'indépendance avait évolué. Donc l'histoire de l'égalité va être l'histoire aussi de la transformation de ces figures fondatrices. Mais ça va être aussi une histoire de la transformation des institutions d'égalité. Et qu'est-ce qu'une institution de l'égalité? Il y a deux façons de considérer une institution de l'égalité. Ça peut être d'abord une institution de mise en forme de l'égalité, une institution d'activation de ces différentes figures. Donc on peut dire par exemple que le suffrage universel est une institution de mise en forme de l'égalité. Ou on peut dire que le marché est une institution de mise en forme de l'égalité d'échange. Mais il y a une autre catégorie d'institutions de l'égalité et qui vont jouer un rôle fondamental, ce sont les institutions de secondarisation des distinctions. J'ai beaucoup insisté dans les premiers cours pour montrer comment les principales figures de l'égalité naissante avaient été liées à la perspective d'une secondarisation des différences. Donc la question des institutions de secondarisation de ces distinctions va être fondamentale. Et il y a deux catégories d'institutions de secondarisation des distinctions. Il y a ce qu'on peut appeler les institutions invisibles, pour reprendre cette catégorie. L'institution invisible, c'est par exemple la confiance, Ce sont les formes de civilité, et elles vont jouer un rôle tout à fait essentiel. Mais il y a d'autres catégories d'institutions qui ont aussi une fonction de secondarisation des distinctions. Et ça va être dans l'histoire de l'égalité fondamentale, ce sont les institutions de redistribution. L'État-providence est une institution fondamentale de secondarisation des distinctions ou des formes de redistribution fiscale. Donc là, on a déjà deux grandes catégories d'institutions de l'égalité, des institutions de mise en forme des figures de l'égalité et des institutions de secondarisation des distinctions. Mais on peut définir aussi un troisième type de catégorie d'institutions de l'égalité. C'est ce que j'appellerais les institutions qui se définissent par leur qualité égalitaire. Donc, à ce moment-là, on peut considérer toutes les institutions du point de vue de leur qualité égalitaire. Ce qui va poser, bien sûr, la question de la définition de ces qualités. Si on prend, par exemple, le problème, question très débattue actuellement, la question du mariage. Quelle est la définition d'une institution égalitaire? Est-ce qu'une institution égalitaire est une institution qui permet à tout le monde d'y avoir accès ou pas? Alors là, on peut comparer, par exemple, l'institution du Pax et l'institution du mariage. Elles, ce ne sont pas des institutions qui offrent les mêmes conditions d'accès. Donc cette question de la qualité égalitaire des institutions va tourner autour d'une appréciation de deux éléments. C'est que la qualité d'égalité peut être fondée soit sur l'indifférence aux distinctions, soit sur la correction des distinctions. Indifférence aux distinctions, pour reprendre cet exemple du Pax, on peut dire que le Pax, c'est une institution qui est indifférente aux distinctions entre les individus. Le mariage n'est pas indifférent aux distinctions entre les individus, puisqu'au contraire, il est fondé sur la distinction entre les hommes et les femmes. On peut dire qu'un contrat, par exemple, un droit des contrats, définit des formes d'institutions indifférentes aux distinctions, ouvertes à toutes les possibilités. Mais on peut avoir aussi une deuxième approche de la qualité égalitaire par une correction des distinctions. Et c'est tout le problème contemporain, sur lequel je reviendrai très longuement l'an prochain, la place des discriminations dans une théorie de l'égalité. Donc, il y a d'abord une transformation des figures de l'égalité. Deuxièmement, des institutions de l'égalité. Troisièmement, c'est fondamental, et cela commence à être très discuté dans la théorie juridique en même temps que dans la philosophie politique, c'est l'espace de l'égalité. Dans les termes mêmes que j'ai employés pour qualifier mes trois figures, je n'ai pas simplement défini des formes de l'égalité, la similarité, l'autonomie et la concitoyenneté, j'ai aussi implicitement défini des espaces, en disant un monde, en disant une communauté et en disant une société. Et aujourd'hui, la question, un des débats très importants dans toutes les théories, je dirais, de la justice, c'est le rapport entre justice locale et justice globale. Il y a énormément de travaux qui ne sont pas simplement des théories de la justice, mais qui sont des théories de la différenciation des espaces de la justice. Ces questions des institutions et ces questions de l'espace de l'égalité, je les aborderai longuement et en détail l'an prochain. Il y a une quatrième catégorie de questions qui structure le champ des interrogations sur la définition de l'égalité et donc les conditions de la progression de la marche vers l'égalité en réduisant ces inachèvements. Elles concernent les sujets de l'égalité. Qui sont les égaux? Il y a trois façons d'aborder cette question des sujets de l'égalité. Il y a trois types de critères. Il peut y avoir d'abord un critère positif d'humanité. Les égaux sont ceux qui sont hommes aussi bien que les autres. Donc je reprends cette formulation célèbre de la période révolutionnaire, ceux qui sont hommes aussi bien que les autres. C'est une définition qui apparaît évidente, qui est liée à tout ce que j'ai retracé sur l'histoire de la notion de qualité identique dans une espèce. Mais en fait, ce critère positif d'humanité pour déterminer le cercle des égaux s'est révélé évident, mais en même temps très problématique et très manipulé. C'est tout le problème du rejet raciste en dehors de l'humanité de certains hommes. C'est aussi le problème de la définition des personnes qui sont en lisière de l'humanité. C'est tout le traitement, par exemple, de l'aliéné ou du malade mental. C'est aussi le problème de l'élargissement de la catégorie d'humanité à celle de vivant, du vivant. Est-ce que les égaux, ce sont simplement les hommes? Est-ce que les égaux, ce sont les êtres vivants? Bon, c'est tout le débat philosophique sur la question des animaux, par exemple, ou même en écologie radicale sur les, sur un certain nombre d'êtres végétaux. Donc on voit que le critère positif d'humanité est un critère qui ouvre une discussion considérable sur le sujet de l'égalité. Un deuxième critère, c'est le critère non pas positif d'appartenance à une même humanité, mais un critère négatif de particularisation et de distinction d'un groupe. L'égalité, dans ce cas, sera définie par la constitution d'un groupe séparé. Et c'est notamment ce qui va être la définition très classique de l'égalité aristocratique. Comment l'égalité aristocratique, c'est une égalité qui est fondée justement sur le sentiment et sur la construction de la différence avec d'autres. Cela va être aussi la définition de ce qu'on peut appeler l'égalité d'exclusion. Je pense qu'un pays, l'histoire américaine au XIXe siècle, est un très bel exemple de construction de l'égalité par la ségrégation, notamment. Cela aussi, c'est quelque chose dont je parlerai longuement l'an prochain. Je voudrais simplement dire quelques mots maintenant d'un troisième critère pour définir les sujets de l'égalité. C'est le critère positif d'individualité. Sont des égaux ceux qui sont des individus définis par l'autonomie de la volonté. Et c'est historiquement ce qui était la base des inaccomplissements majeurs de l'égalité. Les inaccomplissements majeurs de l'égalité, c'est ceux, les individus, qui étaient considérés comme n'étant pas de véritables individus parce qu'ils n'avaient pas de volonté propre. C'est le problème du mineur, c'est le problème du domestique, c'est le problème du fils de famille, c'est le problème de l'aliéné mental. Et c'est d'autre part le problème de tous ceux qui apparaissent définis par leur appartenance à un corps plus que par leur individualité. Et c'est toute la question de la femme qui est définie par la famille, par exemple, ou sujet qui était très discuté pendant la Révolution française, le moine qui est défini par sa communauté et qui n'est pas considéré comme un individu. On peut dire de ce point de vue-là qu'une histoire de l'égalité serait une histoire de l'individu. Donc ce serait une histoire anthropologique de l'individu. Il est très intéressant de voir comment, pendant la Révolution française et aussi pendant la Révolution américaine, cette question-là a été extrêmement discutée parce que ceux qui ont les premiers à avoir proposé un vote pour ouvert aux femmes pendant la Révolution française au tout début, c'était Sieyès et Condorcet. C'était les deux qui étaient pour. Mais c'était la définition de ce qu'on pourrait appeler une égalité par le bas. Leur raisonnement était le suivant. Il y a beaucoup de femmes plus intelligentes que des hommes abrutis qui ont le droit de vote. Donc, ça n'est pas un raisonnement sur l'égalité, c'est un raisonnement, au contraire, sur la structure des inégalités. Et de dire, puisque des hommes abrutis votent, des femmes devraient aussi pouvoir voter parce qu'elles sont beaucoup plus intelligentes qu'eux. Et donc le véritable choix, il est soit entre un suffrage capacitaire qui ne sépare pas les hommes et les femmes, mais qui sépare les hommes capables et les femmes capables, soit un suffrage complètement universel. mais pas un suffrage qui fait la séparation entre les hommes et les femmes. Ce type d'argument était central dans l'histoire américaine. L'argument numéro un des féministes américaines était de dire, après la guerre de sécession, puisque même les Noirs ont droit de vote, tout un ensemble de femmes devrait pouvoir l'avoir. Donc ça, c'était une définition qu'on peut dire de l'égalité par le bas qui a joué un rôle très important dans les arguments féministes en permanence. Mais tout de même, la grande question du vote des femmes, il ne faut pas oublier que Tocqueville a une phrase extraordinaire dans la démocratie en Amérique. Il dit « En Amérique, tout le monde vote, sauf les domestiques, les pauvres, les esclaves et les femmes. » Bon, tout le monde vote, sauf. La grande explication, je dirais, en fait, dominante de l'exclusion des femmes pendant la Révolution française, c'est que la femme est considérée non pas comme un individu, mais la femme est considérée comme un corps. Et qu'effectivement, on peut dire que pendant la Révolution française, le sujet de la citoyenneté, il y a eu beaucoup de travaux historiques récents sur ce sujet-là, le sujet de la citoyenneté, c'est davantage la famille dont l'homme n'est que le chef de famille. Et ça n'est pas la séparation du masculin et du féminin. Et on peut même dire d'une certaine façon, moi j'ai beaucoup insisté sur ce point-là dans mon livre « Le sacre du citoyen », que dans une société qui devient une société d'individus, c'est la femme qui a porté de plus en plus le poids, si je puis dire, rémanent de la société de corps. Et donc, plus la société se démocratisait, plus l'exclusion des femmes s'est renforcée. Donc, c'est un mécanisme qui est fondamental pour comprendre le XIXe siècle et dont on voit tout à fait les origines pendant la Révolution française. D'où d'ailleurs les deux types d'arguments ensuite au XIXe siècle pour aller vers le vote des femmes. Soit un argument qui sera l'argument français en disant « il faut que les femmes deviennent de véritables individus pour qu'elles aient le droit de vote, sinon, c'était le grand argument républicain, elles ne sont pas encore des individus autonomes, elles sont susceptibles d'être manipulées », alors qu'aux États-Unis, comme en Angleterre, le grand argument, et partout ailleurs, le grand argument pour le vote des femmes était de dire « les femmes ont un apport spécifique, elles ont une compétence particulière ». Et donc, ça n'est pas en tant qu'individu, mais c'est en tant dans leur spécificité de femme qu'on doit leur donner le droit de vote. Parce que, par exemple, elles ont une compétence domestique, elles ont une compétence sur les enfants, elles ont une compétence sur les questions de tempérance. Donc, c'est la spécificité de leur apport qui mérite le fait qu'il y ait une représentation duale entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est un argument totalement opposé à l'argument français. Donc, il y a une histoire, on peut dire que l'histoire de l'égalité, là, dans le droit de vote, c'est une histoire de l'individualité qui s'est tout de même fait. Pendant la Révolution française, d'ailleurs, beaucoup de constituants ont comparé cette question à celle du moine qui vivait dans une communauté. Le moine ne peut voter parce qu'il n'est pas véritablement un individu. Il n'a pas une autonomie de la volonté, il est soumis par des vœux. Il est soumis parce qu'il n'est défini que par sa vie communautaire. Donc, il n'est pas un individu au sens de l'autonomie de la volonté. Le premier à avoir théorisé ça, justement, c'est Condorcet. Condorcet était le grand théoricien de l'exclusion des moines. Chose encore plus importante, c'était bien sûr l'exclusion des domestiques. L'exclusion des domestiques, j'ai dit à quel point aux États-Unis on a considéré, en tout cas à partir des années 1820, qu'être domestique, c'était... D'abord, il y en avait beaucoup moins qu'en Europe, mais c'était un métier comme un autre. Mais au début, en Amérique, les domestiques n'avaient pas le droit de vote non plus. L'exclusion du vote domestique est tout simplement liée au fait qu'aucun d'entre eux ne pouvait avoir des conditions de propriété suffisantes. Donc, ils étaient de fait exclus par cette condition. Aussi parce qu'ils n'étaient pas, justement, ils étaient étant soumis à la volonté d'un autre, leur travail n'étant pas simplement, je dirais, le travail que l'on fait contre un salaire, mais le gage définissant une disponibilité continue de la volonté d'autrui, le fait d'habiter sous le toit d'autrui et d'être en permanence à la disposition de cette personne ou de cette famille, faisait qu'on n'était par définition pas un individu autonome. C'est d'autant plus frappant ce fait-là, d'ailleurs, qu'en France, au moment de la Révolution française et au début du XIXe siècle, un trait frappant c'est que les domestiques sont une population qui est beaucoup plus lettrée et beaucoup plus riche que la moyenne. Pourquoi ? On a fait des statistiques. On savait que, par exemple, au milieu du XVIIIe siècle, c'est la fameuse enquête « Lire et écrire » de François Furet et de Jacques Ozouf, ont montré que 42% des domestiques savaient lire et écrire, ce qui est évidemment un taux très supérieur à la moyenne nationale, parce qu'ils vivaient souvent dans des endroits où ils avaient un accès, si je puis dire, plus facile à la culture. Et de la même façon, ils avaient un patrimoine, comme l'ont montré les dépouillements d'archives notariales, plus importants, parce qu'ils avaient souvent une petite donation ou des choses comme ça qui étaient faites, donc ils n'étaient pas absolument sans patrimoine pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, l'exclusion des domestiques a résisté aux critères intellectuels, si je puis dire, et aux critères économiques. C'est dire à quel point la question de l'indépendance de la volonté apparaissait absolument centrale. Et ça paraissait tellement central que c'était intériorisé par la population domestique. Il y a en 1791-90 une fameuse députation de domestiques qui vient apporter une donation patriotique en argent à la constituante, et Sieyès, qui est le président de séance, leur dit à ce moment-là qu'on les remercie beaucoup de ce qu'ils ont fait, mais qu'ils doivent comprendre que c'est pour leur bonheur qu'ils ne sont pas électeurs. Et eux répondent, nous sentons que notre patriotisme n'est pas humilié, car il est difficile de concilier l'exercice de la liberté avec le régime de notre domesticité. La nécessité a établi une dépendance que nous ne pouvons pas éviter. Donc il y avait une espèce d'intériorisation extraordinaire. Et un fait frappant, c'est que le décret du 11 août 92, juste donc après l'abolition de la monarchie, qui a aboli la distinction entre citoyen actif et citoyen passif, a explicitement maintenu le fait que les domestiques n'aient pas le droit de vote. Donc, ça veut dire à quel point c'était considéré comme important. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ça n'est que très tardivement que les domestiques ont été éligibles. Sous la Troisième République, en 1884, un domestique n'est toujours pas éligible à un conseil municipal. Autre catégorie de personnes considérées comme n'ayant pas l'autonomie de la volonté, c'est tout simplement les pauvres et les assistés. La législation est très stricte aux États-Unis sur ce plan-là. Quelqu'un qui reçoit des subsides d'État, on dirait aujourd'hui d'État-providence, quelqu'un qui reçoit des subsides publics ne peut pas voter. Et en France, cette interdiction existait pendant la Révolution et elle a persisté longtemps pour l'éligibilité. Puisqu'il faut attendre 1975 pour qu'une personne recevant de l'argent d'un bureau d'aide municipale puisse être éligible à un conseil municipal. Il a fait, en 75, c'est la fameuse loi sur le handicap. Et beaucoup de personnes handicapées recevaient des allocations. Et ces allocations, de fait, juridiquement, jusqu'en 75, leur empêchaient d'être éligibles. Aux États-Unis, il y a eu très tardivement des interdictions pour les personnes recevant des subsides. Là, j'ai le tableau des différents États. Il y a 12 États qui étaient concernés à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. 12 États, c'est quand même très, très important. Tout ça montre que, là, j'ai juste pris un exemple des inachèvements, en mettant qu'une des formes d'inachèvement ces figures de l'égalité, c'était un inachèvement, pourrait-on dire, anthropologique, c'est-à-dire le fait de considérer que des personnes ne sont pas véritablement des individus, qu'elles n'ont pas l'autonomie de la volonté, et donc elles ne sont pas des sujets de l'égalité. Et donc on ne peut pas simplement faire une histoire des figures, il faut faire aussi une histoire des sujets, une histoire des institutions, et une histoire, bien sûr, aussi des espaces. Je m'interromps et ensuite nous verrons non pas ce qui est simplement de l'ordre de l'accomplissement ou ce qui est de l'ordre de l'inachèvement, mais ce qui est de l'ordre de la rupture. Et ce qui est de l'ordre de la rupture, eh bien, ça va être la question, je dirais, de la naissance de la société industrielle.